Bien, donc, on a le plaisir d'accueillir dans sa propre librairie Gilles Nadeau, qui nous fait l'honneur de nous faire un exposé sur Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, qui est quand même quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui a marqué tout le XXe siècle en débordant un petit peu sur le XXIe, mais il a vécu, d'après ce que je crois savoir, jusqu'à 102 ans, hein, c'est ça. Il est mort en 2013. Il a d'abord travaillé avant la guerre sur les surréalistes, c'était ses premiers travaux, je crois, et ensuite il a beaucoup travaillé dans différents journaux, Combat, Gavroche, France Observateur, L'Express, La Quinzaine littéraire. Donc, je vous laisse la parole, Gilles.
Bon, ben, bonjour à tous et merci d'être venus à notre petite rencontre. C'est une présentation de deux bouquins. Hein. Le 1500 pages, 1600 pages, un tome 1 et tome 2 de 60 ans de journalisme littéraire qui, c'est une aventure qui ne s'arrêtera pas là puisqu'il y aura un tome 3 et un tome 4 de 1200 pages pour le tome 3 et probablement un peu moins de 800 à 1000 pages pour le tome 4. Ça donne une dimension de ce que mon père a pu faire durant sa très longue carrière de critique de journalisme littéraire. Il était éditeur, il était directeur de revue et il était journaliste, ce qui est assez rare dans le paysage littéraire français, et en plus une longévité assez importante puisqu'il commence en 1945 dans le journal Combat à tenir une page littéraire hebdomadaire dans laquelle il fait connaître Michaud, il défend toute la nouvelle littérature qui explose à la Libération, et il va continuer pendant moins 5-6 ans à Combat. Il va en être éjecté à un moment parce que le journal a été racheté par un homme d'affaires et que la littérature commence un petit peu à perdre de son importance en France. Il passe au journal France Observateur, où il va tenir là pendant une dizaine d'années des chroniques continuer à faire des recensions. En 1953, il crée une revue qui s'appelle Les Lettres Nouvelles, oui, bien sûr, il intervient, mais surtout, il convoque les plumes d'un bon millier d'écrivains qui ne se cantonnent pas au domaine français. On y trouve toutes les signatures des écrivains de l'étranger, de l'Est en particulier, parce que c'est un anti-stalinien. Il faut se reporter à une époque où les lettres françaises étaient quasiment occupées la moitié du paysage littéraire français, hein. Les lettres françaises, c'est-à-dire le Parti communiste stalinien, et donc Aragon. Et donc, mon père publie à cette époque des gens comme Solzhenitsyn dans sa revue. Il publie Chalamov. Bon, il défend, en gros, tous les intellectuels de l'autre côté du rideau de fer. C'est aussi des Américains. Il défend toute la littérature américaine qui va de Steinbeck à Hemingway, c'est gigantesque. Pourquoi ça fait plus de 5000 pages cet ensemble d'articles? C'est parce que en fait il n'a pas loupé grand monde. Ça représente en fait une encyclopédie de la culture et de la littérature mondiale à cette époque. Alors comment il s'est obtenu ça, c'est un mystère. C'est un mystère parce que ça représente un travail prodigieux. Hein, je ne sais plus combien il y a d'articles, enfin bon, il y a des milliers d'articles. On pourrait avoir peur d'aborder un monument pareil. Et ben, il se trouve que ça restait d'actualité. Il ne fait pas de chichi, hein, non, il n'a pas d'un style d'écrivain, par exemple, hein, qui aurait pu passer de mode. Mais non, il défend les auteurs, il s'enthousiasme pour eux, il a toujours une tournure personnelle, une implication personnelle dans ses écrits, dans ses analyses, et ce qui fait que c'est passionnant à lire, même pour moi qui connais l'histoire, qui connais à peu près les auteurs, qui venaient quelquefois à la maison, etc. Je découvre, et ce n'est pas uniquement l'histoire de filiation, c'est lié à la qualité de l'œuvre.
ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers son œuvre et à travers ce que vous avez fait ici, c'est réellement une encyclopédie de toute la littérature du XXe siècle. Quasiment. On retrouve tous les grands noms, et les moins grands noms d'ailleurs. Vous couvrez combien de personnes ? Il y a combien de personnes dans...
Alors, effectivement, j'ai fait dans le tome 2, j'ai fait une espèce d'index, une liste de tous les auteurs chroniqués. On peut dire qu'il doit y avoir au moins 500 noms quand même, 500 noms, dont la moitié est passée à la postérité. Et il n'a pas loupé grand monde. Peut-être qu'il y a des auteurs dont il n'a pas parlé, mais c'est ceux dont il n'aimait pas. Alors, ça, c'est des choix personnels, n'est-ce pas? Et quand il les aborde, bon, il les égratigne un peu. Mais souvent, il revient sur un auteur. Il n'écrit pas simplement un article sur un auteur. Et il le suit. Il le suit à travers toute la période. Bon, durant 60 ans, hein, quand ils ont la chance de vivre aussi longtemps. Par exemple, il y a au moins une dizaine d'articles sur Céline. Il y en a une vingtaine sur Léris. Il y en a 15 sur Claude Simon.
Vous avez structuré vos différents volumes, d'abord par ordre chronologique, puisque là vous avez édité les deux premiers, donc là c'est par période. À l'intérieur de chaque volume, vous nous expliquez comment c'est structuré.
C'est effectivement chronologique. Et alors, bon, je m'étais posé la question au départ, faire des thématiques, et puis je me suis rendu compte que ça aurait été un enfer de s'y retrouver, ça aurait été thème, sous-thème, etc., etc. Il valait mieux garder la chronologie, et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que comme on est dans le journalisme, ça ressemble quand même à un journal de lecture, et ça peut se lire comme en suivant les rythmes des parutions. Ça donne un écho de l'arrière-fond de l'histoire en cours. Bien sûr, les écrivains n'écrivent pas l'histoire. En revanche, quand même, ils sont ancrés dans leur histoire. Ils sont ancrés dans l'histoire. Et alors, en suivant la chronologie, aussi, c'est une chronologie des événements qui se dessinent. Alors, il se trouve aussi que mon père était assez engagé politiquement et donc combattant le stalinisme, etc. Pendant la guerre d'Algérie, il a été un des signataires du manifeste de 121 pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Il s'est trouvé en train de défendre son point de vue. Ce point de vue qui était toujours d'affirmer la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Et évidemment, il y a à la fois des comptes rendus d'ouvrages et il y a aussi des prises de position à travers les événements qui se succèdent. Bref, la mise en page chronologique de tous ces textes était devenue tout à fait nécessaire pour qu'il y ait un fil. Bon, à chaque année, je faisais une petite présentation de l'année en cours, quels étaient les grands événements qui se produisaient, pour voir justement s'il y avait un écho avec les textes qui sont rassemblés. Et c'est vrai que ça opérait pas mal, et que les livres sont structurés, donc l'année se présente avec ces événements les plus marquants. Et puis derrière, il y a la liste de tous les articles avec le nom des auteurs, et curieusement, on se rend compte qu'il y a une petite musique entre les deux, entre le choix de tous ces... parce que c'est un choix, évidemment, fait par mon père, dans le champ des œuvres qui sont prodigieusement plus importantes, n'est-ce pas ? Eh bien, ça représente quelque part une analyse de la littérature par rapport aux événements en cours.
Quel a été le parcours personnel qui a amené votre père à avoir ce genre d'activité ? Est-ce qu'il a fait un type d'études familialement ? Comment est-ce qu'il était préparé à ce genre de choses ? Quel est son itinéraire en fin de compte ?
Oui, son itinéraire, c'est très simple. Il a fait l'école normale d'instituteur. Il était parti pour être professeur, mais alors dans l'entre-guerres, hein, il est né en 1911, il avait 20 ans, donc en 31, Il est très très vite été attiré par les idées révolutionnaires, le Parti communiste. Il a vite déchanté avec la tournure que prenaient les événements, avec l'exclusion de, enfin bon, l'exil de Trotsky et puis l'abandon des idées révolutionnaires. Il a rejoint un groupe trotskiste, le groupe de Pierre Naville, et il a rencontré, bon, pendant toute cette période, il a fait un journal trotskiste et, qui s'appelait Clarté, où on se retrouvait à collaborer, Breton, c'était l'organisme de la FIARI, la Fédération internationale des artistes révolutionnaires indépendants. Qui a eu une existence très éphémère, hein, puisque les premiers numéros c'est en 1938, et en 1939, paf, c'est la guerre. Bon, la guerre ne va pas mettre un arrêt brutal à tout ça. Il va passer l'occupation, oui, on peut dire qu'il a été résistant, puisqu'il cachait du monde, il stockait des armes, tout ça dans son appart. Mais pas mal de ses copains ont été déportés. David Rousset a été déporté, c'était un de ses amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il avait fait du travail en direction des soldats allemands, pour les retourner. Alors il était en collaboration avec en collaboration, c'est le cas de le dire, avec un soldat qui était un ancien membre du Parti socialiste allemand, et qui au moment du débarquement a mis du sucre dans les réservoirs d'essence des tanks qui partaient sur le front. Et alors évidemment ça partait, tombait en panne. Bon, le pauvre type, il a été arrêté, hein. Ils ont trouvé tout de suite ce qui s'était passé. Mais voilà, bon, ce genre de choses que mon père a connu. Pendant l'occupation, il a écrit une histoire du surréalisme, parce que bon, il était très proche de Benjamin Perret. Donc, il écrit cette histoire du surréalisme qui parut en 45. Et alors là, bon, bah voilà, ça c'est les histoires, c'est les hasards de l'existence. Enfin, pour des arts objectifs tout de même. Il a un copain, un grand reporter qui s'appelait Bodin, qui l'emmène rencontrer Pascal Pia, qui est le directeur du journal Combat, le journal de Camus. Et Pascal Pia, à la fin de l'entretien, bon, il était venu parler de son bouquin, quoi. L'entretien dit, bon, ben, vous commencez, quand est-ce que vous commencez? Alors mon père, qui n'était pas venu chercher du travail, était un peu saisi. Il a réfléchi 2 secondes, et puis il dit, ben, je peux commencer demain. Et il avait une affectation comme prof, je ne sais pas, en province. Ben, finalement, il est rentré au journal de combat. Alors, il a fait d'abord, bon, il a pénurie de papier, il a fait les chiens écrasés pendant un bout de temps. Puis, très, très vite, il a écrit des articles sur la littérature et sur les écrivains. Et puis, il a tenu la page littéraire. Bon, puis ensuite, il a créé cette revue. Il a pris la défense d'Henri Miller, qui était poursuivi par les tribunaux, les ligues, la défense de la jeunesse, de Dieu sait quoi. Alors, Henri Miller était tellement reconnaissant qu'il lui dit, mais si vous voulez, vous pouvez éditer tous mes livres maintenant, parce que mon père lui a proposé de diriger une collection chez Buchet-Chastel, Coréa. C'est là où il a édité Nexus, Plexus, Nexus. Il a édité Laurence Durel, Malcolm Lowry, En dessous du volcan. Enfin, ce type de bouquins, quand même, qui ont laissé des traces, hein, dans l'histoire littéraire. Et puis, il a rencontré un autre éditeur, René Julliard, qui lui a dit, ben, venez faire une revue chez moi. Donc, il a créé les Lettres Nouvelles en 1953. Où là, bon, ben, on lui a dit, ben, pourquoi pas une collection en plus. Alors, il y a eu la collection des Lettres Nouvelles qui s'est installée. Et ben, là, il y a publié, ben, un grand nombre de personnes. Donc Pérec, donc Georges Pérec, les choses, juste avant d'ailleurs qu'il soit remercié à la mort de Julliard par les nouveaux propriétaires de la maison d'édition. Voilà, alors il est passé chez De Noël, il a continué son travail, et puis en 1976, il s'est mis à son propre compte. 10 ans auparavant, il avait créé avec François Herval la quinzaine littéraire, qui va durer jusqu'en 2013, vous voyez, il y a plus de 60 ans, quoi, quasiment. Là aussi, plein de grandes signatures vont se succéder, y compris des gens qui vont devenir prix Nobel. C'est une encyclopédie à elle toute seule. Je me suis dit, je vais numériser cette affaire, je vais mettre ça sur Internet. Alors, j'ai commencé, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Il y a quand même 30 000 articles qui sont en ligne. On trouve les signatures les plus extraordinaires dans la quinzaine. Et curieusement, on voit que mon père, c'est un peu comme il a mené un petit peu, il a été chef de groupe en quelque sorte, comme dans un. Je pense que ses expériences dans le milieu trotskiste, les organisations trotskistes ultra-minoritaires auxquelles il avait participé, où il y avait une cohésion, etc., ben, il avait su recréer des groupes autour de lui, de gens qui sont restés fidèles pendant 25-30 ans, parce qu'il faut dire que, à la quinzaine littéraire, par exemple, pas plus que dans la Lire en Vue, personne n'était rémunéré. Hein, donc, c'était du bénévolat. Alors, vous allez fidéliser des gens pendant 25 ou 30 ans bénévolement. Je vois que c'est. Eric Nadeau qui pouvait faire des choses pareilles. Quoi. Il y avait de temps en temps des ventes de tableaux d'artistes qui venaient. Mon père a toujours été très lié avec toutes sortes de peintres. C'était l'héritage en quelque sorte de l'histoire du surréalisme. Et alors donc, il y avait donc des peintres qui donnaient leurs toiles à vendre et on récoltait de l'argent. Et puis le journal repartait, payait ses dettes et puis repartait. Et voilà un peu comment ça se passait. Il y a eu même un épisode où mon père a proposé à tous les abonnés de devenir actionnaires du journal. Enfin bon, il a essayé toutes les solutions possibles, imaginables pour continuer à éditer son journal. Et le journal, le numéro 1 a été tiré à 40 000 exemplaires, le numéro 2 à 20 000. Et ensuite, les tirages ont été à 15 000. Et à la fin, en 2013, c'était 10 000. Bon, il y avait toujours une base d'abonnés de 2-3 000. Il y avait 5-6 000 personnes qui suivaient ce journal. On peut dire.
Vous aviez beaucoup de contacts avec nous, vous le regardiez travailler. En fait, vous l'avez découvert pas mal après, en travaillant sur lui et sur les textes et sur les offres. Comment vous le perceviez?
C'est surtout à travers les écrivains qui venaient à la maison que je découvrais mon père. Parce que mon père ne parlait pas de son boulot à table, en famille. Hein. Si, de temps en temps, quand même, on plaisantait un peu sur Sartre, parce que Sartre avait des relations compliquées avec le Parti communiste. Alors, mon père se fichait un peu de lui, hein, mais ce qui n'empêchait pas d'être très respectueux. Hein, il a toujours beaucoup aimé Sartre, hein, qui le lui a bien rendu, d'ailleurs. Il a, quand même, dans l'affaire des 121, mon père a eu 21 inculpations sur le dos. Sartre a signé le truc, etc. Alors là, évidemment, De Gaulle a dit on va pas mettre Voltaire en prison, quand même, c'est pas possible. Et surtout, ce qui venait à la maison, c'était Henri Miller. Alors Henri Miller, c'était le coup de foudre. Hein. J'ai découvert un écrivain. Alors donc, je me rendais compte que la relation d'un éditeur, d'un journaliste, avec un écrivain, c'était quelque chose de très spécial. C'était des amitiés, alors, pas toujours évidentes avec les écrivains, mais avec Miller, c'était un cas très particulier. Et Miller arrive à la maison, j'ai 12 ans, j'ai fait des conneries, on m'a emmené au commissariat, j'avais volé des trucs au bon marché, etc. Et puis, Miller arrive à la maison, je rentre de l'école, Miller m'a dit « Bonjour, Gérald, il paraît que tu as volé !» Oh là là, le premier mot que m'a dit Miller. En plus, Miller, j'avais compris que c'était un type important, il y avait des journalistes dans l'escalier et tout, etc. Bon. Ah, j'ai dit, merde, ça y est, je suis découvert. C'est comme dans les rêves, on se retrouve tout nu dans tout le monde. Et il me dit, c'est pas grave. Je l'ai fait aussi. J'ai été volé dans la subie de l'aveugle, dans la bouche du métro. Mais je lui ai rendu plus tard, hein, c'est pas grave. Bon, voilà le genre de type. Alors, etc. Je voyais bien que ce type détonnait complètement avec les gens qu'on avait l'habitude de rencontrer. Hein. Alors, je me souviens d'Arabal qui était tout à fait extraordinaire. Je me souviens de Jean Doisseau, l'auteur de La Gana, qui était un conteur invraisemblable. C'était une façon de connaître mon père à travers les gens qu'il aimait. D'ailleurs, il a écrit un bouquin « Grâce leur soit rendue ». Bon, il parle de lui, hein, mais il parle de lui à travers les écrivains qu'il rencontre. Alors voilà, bah moi j'ai fait un peu la même chose. Et puis il faut dire aussi une autre chose, c'est que mon premier boulot, c'est la quinzaine littéraire. En 66, je suis engagé à la mise en page, je fais la recherche de documents, je commence la documentation, je documentaliste. Ça va amener plus tard, quand je quitterai la quinzaine, à faire la documentation plus tard à l'Encyclopédie universaliste. Puis je me retrouvais à la télé en train de faire de la documentation. Puis ensuite, je vais passer réalisateur. Vous voyez, bon, comme ça, les choses se passent. Donc, en 2000, 30 ans plus tard, je reviens un peu à la quinzaine, quoi, que j'avais quittée. Je fais quand même qu'il reste une trace de tout ça. Le site internet des archives de la quinzaine littéraire. Et puis maintenant, le recueil de 60 ans de journalisme littéraire. Bon, voilà, c'est.
Et votre site internet, il a, c'est quoi? C'est une base de données de tout.
Oui, c'est une base de données. Il y a 30 000 articles au moins en ligne.
L'accès en accès libre?
En accès, non, pas complètement. Ce qui est, les 10 premières années sont en accès libre et le reste, c'est pas très cher, c'est 1 € l'article. Et surtout, ça permet de continuer la numérisation des articles, surtout ceux qui ne sont pas disponibles. On clique, paf, l'article n'est pas disponible, vous le commandez, on le réalise, on fait l'OCR, tout, etc. Et bon, on a un projet avec, on entend dans l'ado, parce que oui, tout ça, quand même, il y a encore une autre filiation, c'est que le groupe qui faisait partie de la quinzaine littéraire, des collaborateurs réguliers de la quinzaine littéraire, s'est retrouvé dans le blog littéraire qui s'appelle On entend dans l'ado. On a le projet commun de rendre plus simple l'accès aux archives de la quinzaine, parce que notre site est bon, un petit peu, comment dirais-je, c'est un site de recherche, quoi, hein. Il faut savoir ce qu'on cherche. C'est toujours curieux, hein, quand on analyse le nombre d'électeurs d'un journal. Il y a les occasionnels et puis il y a les fidèles. Bon, alors évidemment, la quinzaine, c'était les fidèles. C'était des gens qui se réabonnaient régulièrement. Et puis bon, ça permettait au journal de survivre. Mais alors, je viens d'apprendre par en attendant l'ado, Tiphaine Samoyo, qui me dit cette année, en attendant l'ado, donc c'est le comité de rédaction de la quinzaine littéraire, hein, qui s'est reconverti, ils ont eu jusqu'à 500 000 visiteurs uniques dans l'année, en 2020. 500 000. Alors, c'est énorme, comme elle a dit ça, moi je dis waouh! Bon, quand même. Il y a quelque part un besoin. Alors, c'est vrai que le papier, c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème. Tous les éditeurs s'arrachent les cheveux. Éditer un journal, c'est déficitaire. Déjà, d'éditer des bouquins qui ne sont pas grand public, comme on dit, les trucs de divertissement, c'est déjà compliqué. Mais alors, un journal, c'est encore plus compliqué. Mais donc, il y a quand même il y a un lectorat, quoi. Il y a un public. Alors, on se dit qu'il y a des choses à inventer, hein, c'est évident. J'ai un peu digressé sur la question, hein.
Non, mais ça fait rien, au contraire.
Est-ce que votre père parlait une langue étrangère, Alain Chansignard?
Oui, là, mon père parlait l'allemand. Il parlait un petit peu l'anglais. Je lisais, il lisait l'anglais avant. Et alors, il était secondé par ma mère qui parlait l'italien. Parce qu'elle était corse, alors l'italien, comme si c'était une seconde langue. Et ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal pour pouvoir s'en rendre compte, effectivement, de la qualité d'un livre. Curieusement, oui, les ouvrages des Russes, c'est les traducteurs qui venaient voir mon père et qui leur disaient, ça c'est formidable. Alors bon, ils traduisaient un peu, 3 chapitres. Et puis sur ça, mon père se disait, bon, allez, on va l'éditer. C'est comme ça qu'il a édité les récits de la Colima de Chalamov. Et ça, c'était une drôle d'histoire parce que c'est toujours pour parler des relations avec le Parti communiste. Les lettres françaises font courir le bruit. Pierre Dex fait courir le bruit que Chalamov, c'est une imposture, que en fait, le type n'a jamais existé, que c'est un machin de la CIA là, qui traîne et tout, etc. Alors mon père est un peu emmerdé parce qu'il a eu des microfilms, mais évidemment, il n'a pas rencontré l'auteur, hein, qui est sorti des camps. Hein, qui est sorti des camps, il se renseigne. Il faut faire ça discrètement parce que, évidemment, pour voir ce. C'est encore pire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il arrive avoir un courrier de Chalamov qui lui envoie une photo, qui lui signe un papier comme quoi il est bien l'auteur du texte, et il envoie sa photo, etc. Donc, et mon père le publie. Et bon, quand même, les récits de la Colima de Chalamov, je ne sais pas qui a lu, qui n'a pas lu. Mais alors là, ça, c'est le bouquin quand même qui... c'est un auteur qui arrive avec sobriété à faire de la poésie sur un truc épouvantable. Aux éditions d'Ado, là, j'ai réédité justement le bouquin de Chalamov qui sont ses poèmes. Alors, il a fait de la poésie. Voilà, bon, je ne sais pas si vous voyez là, Chalamov, voilà la tête. C'était une première page d'un des numéros de la quinzaine littéraire. C'était un type incroyable. Hein. Il a réussi à survivre, à planquer tout ce qu'il écrivait, et puis à la sortie des camps, rassembler tout ça, publier. Ouais.
L'ouvrage comme grâce leur soit rendu, moi je trouve qu'il y a aussi une très grande beauté du style, c'est-à-dire que vraiment c'est un passeur, c'est quelqu'un qui donne envie d'aller lire, d'aller voir, etc. etc. C'est assez extraordinaire. Hein. Je pense qu'il faut aussi mesurer sa dimension d'écrivain propre, finalement, au niveau de l'écriture. Mm-hmm. Et puis, là, c'est une remarque et la question. Je me demandais, est-ce qu'on peut considérer que Pascal Piat a joué un rôle, puisque il y a des points communs, on peut sentir, avec Pascal Piat, qui était... le cas d'une immense érudition comme Nado, etc. Est-ce que ça l'a influencé, cet homme?
Oui, c'est là. Pia et Nado ont été des amis toute leur vie. Bon, bien sûr, c'était. Pia avait embauché Nado, bon, bien sûr. Mais moi, je l'ai connu. Pia était un type, il venait à la maison, il est parti de Canasta, endiablé. C'était un type extraordinaire. Alors, c'était curieux parce que politiquement, il était plutôt gaulliste, hein, et puis même plutôt anarchiste de droite. Hein. Et il s'entendait merveilleusement bien avec mon père. Et d'ailleurs, au moment du procès des 121, quand il y a les poursuites et qu'on menace mon père de tôle, quoi, en quelque sorte, Pierre dit si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, j'appelle De Gaulle. Parce que De Gaulle lui avait proposé un ministère qu'il avait refusé parce que c'était être ministre, non, certainement pas. Il faut dire que Pierre était un drôle de type aussi. Hein. Il s'était baladé avec une partie du trésor de la Banque de France, hein, pendant l'occupation. Il l'avait rendu, hein, ce qui est beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? C'était un type intègre. Et alors, oui, on peut dire qu'ils avaient un point commun, hein, l'intégrité. Ils acceptaient parfaitement les divergences politiques sans problème, mais la sincérité, l'honnêteté, ça faisait partie du tronc commun, quoi. Et alors, je sais pas, l'un influençait l'autre, ça allait peut-être dans les deux sens, hein. Enfin, c'était une véritable amitié, hein. Moi j'en étais témoin, et en plus Pierre était un type délicieux, gentil. En fait, les amis de mon père étaient très gentils avec moi. Alors donc, ça signifie quand même aussi quelque chose. Ça veut dire que c'est pas des gens qui, vous voyez, la distance de la position importante, l'écrivain reconnu, etc. Non, pas du tout. C'était en général des gens plutôt modestes. Hein. Miller était un type très modeste. Hein. Il a jamais parlé de lui. De ses bouquins à table. J'entendais parler que du bon vin, du bon pain, de l'air du temps, etc. Mais il ne se posait pas comme un auteur. Il était extrêmement discret là-dessus.
Vous continuez à éditer. Hein. Vous faites la suite des éditions Maurice Nado et vous publiez des livres également. C'est-à-dire l'activité de la maison d'édition en... C'est quoi? Vous ressortez les nouveaux auteurs ou...
Je vous montre un truc là. Raphaël Nizan, Sous le ciel vide. C'est un bouquin formidable. Un premier roman. Alors oui, donc les premiers auteurs, oui, Ça, c'est... J'ai hérité ça de mon père aussi. Hein. J'ai hérité de sa maison d'édition et sa propension à publier des premiers romans. Ceux qui ne se vendent pas, évidemment, puisqu'ils ne sont pas connus. Hein. Et ceux dont on ne parle pas dans la presse, puisqu'ils ne sont pas connus. Alors, bon, c'est... point de vue rationnel, c'est pas très malin. Mais par exemple, Irène Guéraud, hein, Le livre des incompris, c'est un bouquin formidable. Hein, premier roman, un auteur, une écriture, enfin bon, c'est sensationnel. Le jardin du Lager Commandante. Alors là, c'est le journal de la femme d'un officier du camp d'Auschwitz qui veut avoir un jardin aussi beau que celui de la Lager Commandante. Et qui veut donc avoir une serre, hein, pendant l'hiver polonais, là-bas, il faut brûler du charbon. Ils ont calculé, ça va faire 120 tonnes pour pouvoir faire pousser des plantes là-bas pendant, et tenir un salon littéraire et culturel avec la femme des officiers nazis à 3 km des crématoires. Alors, bon, c'est un bouquin tout à fait intéressant et inhabituel. C'est les ouvrages qui comptent, qui valent la peine d'être lus.